Vous écoutez RTL.
Tout de suite, on voyage sur RTL. Bonjour Pierre de Vallombreuse.
Bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver. Vous êtes photographe, vous sillonnez la planète depuis des décennies à la rencontre de tribus indigènes. Vous allez nous embarquer pour une destination de rêve, l'île de Palawan. On est aux Philippines. Le commandant Cousteau disait que c'était l'un des plus beaux lieux qu'il avait vu au monde. Vous pouvez nous décrire cette île?
Alors l'île, bien sûr, c'est une très très belle île. Elle est bordée par la mer de Chine. C'est une île qui a une forêt encore magnifique, qui est assez protégée, encore plus protégée à l'époque du commandant Cousteau. Maintenant, elle est menacée. Palmiers à huile, plantations, donc exploitation minière. Cette île est en danger.
Alors c'est vallonné.
Oui, il y a une chaîne de montagnes qui la coupe entre l'est et l'ouest, et avec des monts magnifiques qui font rêver. On les voit couverts de brume. Je suppose qu'il y a encore quelques groupes qui sont à l'intérieur. Et voilà. Et donc c'est très très beau.
Et cette île tient son nom d'un peuple aborigène, les Palawan. On vous les présente tout de suite sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
Bien, entre curieux.
Ça fait maintenant 25 ans que j'ai entrepris ce vaste travail d'aller vivre, apprendre des langues, m'immerger dans des peuples.
Thomas Hugues.
Témoigner de leur situation et de leur réponse à la vie sur Terre.
Sidonie Bonnec.
Je suis parti à Bornéo, j'ai vécu avec des nomades dans la jungle et le choc a été tellement immense.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Je me suis dit finalement, la photographie va me permettre de vivre des histoires et la photographie me permet de les raconter aux gens.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Notre invité, vous venez de l'entendre, il est photographe Pierre de Vallombreuse et il nous fait voyager dans la curiosité sur RTL, direction donc l'ouest des Philippines. On est sur cette île de Palawan et sur cette île, il y a ce petit groupe de chasseurs-cueilleurs, les Taobatu. Combien sont-ils? À quoi ressemblent-ils?
Les Taobatu, c'est 120 personnes qui appartiennent à l'ethnie Palawan et qui vivent dans la petite vallée de Singnapan. Et ils ont la particularité, Taobatu, ça veut dire homme des rochers, parce que pendant la saison des pluies ou lors de conflits, quand il y a des guerres, il y a des guérillas aux Philippines, ils vont se planquer dans un réseau de cavernes qui sont sur des falaises calcaires cachées par la jungle et qui sont très très difficiles d'accès. Donc voilà, donc du coup l'utilisation cavernicole, on leur a donné le nom de homme des rochers.
Alors vous les avez rencontrés plusieurs fois, on va y revenir, hein. Vous avez tissé un lien sur des décennies avec eux. La première rencontre, comment ils vous accueillent, comment ça se passe?
Gentiment, très gentiment. C'est un peuple très doux, très gentil, très hospitalier. En plus, à l'époque, j'étais venu avec ma femme et donc on était un couple. Et quand on vient, un homme et une femme, on n'est pas à l'avant-garde d'une compagnie minière, d'un prédateur. Généralement, c'est harmonieux. Donc, c'est très rassurant. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre la langue et puis je suis revenu. Et ils étaient très. Ce sont des gens qui sont.
Combien de temps au total vous y avez vécu?
4 ans, 18 voyages.
Ils vivent où, les Taobatu? Ça ressemble à quoi, leur village?
Alors, ils vivent pas dans les villages, ils vivent dans des petits hameaux. Ce sont des gens qui sont des solitaires, ils aiment pas les groupes, parce qu'ils disent que quand les villages, c'est panas, 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 ça veut dire que ça chauffe
ah
trop.
Oui.
Il y a trop de monde. Donc,
on s'agace les uns les autres.
Exactement.
Qui vivent en famille, c'est ça? C'est le petit noyau?
Exactement. Ce sont des petits. Et de temps en temps, ils font un bouloun-bouloun, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui s'aiment bien, et qui se disent, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un petit hameau ensemble? Donc, il y a 2-3 maisons, un champ à côté, ils vont s'entraider, ça dure 2-3 années, après, ils se séparent.
Mais ils ont des chambres d'amis quand même, parce qu'ils vous ont accueilli, Pierre de Vallombreuse.
Je dors chez eux, je dors dans leur maison.
Ouais.
J'ai toujours dormi dans leur maison, j'ai ma petite moustiquaire.
Vous vivez comme eux, ça ressemble à quoi?
C'est des maisons sur pilotis, avec des toits en feuilles, et j'ai une petite moustiquaire dans laquelle je m'installe, avec ma bibliothèque de voyage, mes affaires. Et puis voilà, il y a un foyer, il y a de temps en temps des petites banquettes en bambou. C'est très simple, c'est un habitat très simple.
Comment vous communiquez avec eux? Vous parlez leur langue, là, on vous a entendu employer quelques mots. Ça donne quoi, le Palawan?
Le Palawan, ça donne Salamat Banar, Ako Manunga Atoiko, At Sugit Sugit Salamat Dimo.
Ça veut dire
je suis très heureux de venir reparler avec vous de mes histoires. Et merci beaucoup.
Ça ressemble à quoi, écrit, le Palawan?
Ça ne s'écrit pas, c'est oral.
Ah, il n'y a pas de trace écrite?
Non.
Ça se chante même.
Ah, ils ont une langue extraordinaire. C'est une civilisation très simple. Ils font pas de sculpture, il n'y a pas de maison qui reste, il n'y a pas d'ornement, de tatouage. Par contre, quand on pénètre dans leur culture orale, c'est d'une richesse infinie. Ils ont des mots d'une grande poésie, grande délicatesse. Ils ont des chants sublimes. Et toute leur poésie, c'est vraiment, et qui reflète en même temps leur civilisation, leur philosophie.
La séduction passe par le chant, c'est ça ?
Oui, on emploie un langage qui s'appelle fleur de parole. Ce sont les mots les plus beaux. Et quand un jeune homme veut séduire une femme, il va employer des mots avec les consonances les plus belles.
Et c'est quoi les belles consonances ? Je ne vous demande pas de me draguer, Pierre de Vallombreuse, mais c'est pour entendre le palawan.
Vous avez mis un joli pull rose pour
oui,
toi.
Mais c'est juste pour me plaire à moi.
Comment on drague en palawan ?
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Pardon ?
Vous n'avez pas répondu à notre question. Mais quels sont les jolis mots, les belles sonorités qu'on emploie quand on veut draguer en palawan ?
Alors ça, c'est des sonorités qui vont être très musicales, ils vont rentrer dans une musicalité, ils vont monter dans les aigus, parce que ce qui est extraordinaire quand on entend parler les palawans, c'est que tout d'un coup ils vont parler un tout petit peu grave, et puis ça va monter dans des aigus, on dirait qu'ils sont en perpétuellement en train de faire du théâtre. Et de temps en temps, c'est juste, oh, tiens, passe-moi le sel, ou où est-ce que t'as marché, ça devient, mais où est-ce que tu es parti marcher, c'est extraordinaire, alors qu'on faisait juste, tiens, j'ai changé de t-shirt, voilà, c'est voilà. Des trucs... Et puis ça fait ils ont une espèce, et c'est très très beau.
Ça laisse entendre une joie de vivre et un certain sens de l'humour aussi. Le peuple de la vallée, c'est le nom de cette exposition photo qui se tient au Musée de l'Homme jusqu'au 2 juillet. De quoi vivent-ils les Taobatou ?
Alors ce sont de remarquables agriculteurs, 23 variétés de riz. Et après il y a du manioc, ils ont des root crops, des légumes et des fruits. Et puis, ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc singes, quand il y en avait. Ah, autrefois, il y avait pas mal de sangliers, il n'y en a plus, parce que la déforestation a fait que le gibier s'est raréfié. Et voilà, donc c'est des longues parties de l'ombre des torrents, c'est sublime. Quand les gens partent pendant plusieurs heures, on suit comme ça, à ramasser des crabes, des crevettes, et c'est des parties de pêche extraordinaires. Le long des torrents, on est dans des endroits, c'est le plus bel endroit que je connaisse.
Hein, et Pierre de Vallombreuse, le riz, c'est un peu l'or des Taobatou. Pourquoi c'est un moment clé, la récolte du riz ?
Parce que c'est ce qui va conditionner la qualité de la vie de l'année qui va suivre. C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'y a pas beaucoup de différence dans leur alimentation. Le riz, d'abord, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus savoureux. Et si on passe, les gens qui ont une mauvaise récolte, ils vont vivre avec du manioc. Et franchement, une famille qui au bout de trois mois qui mange que du manioc, vous le voyez à leur tête, ils sont pas très joyeux. Donc c'est ce qui va conditionner leur humeur.
Une île donc paradisiaque, sauf peut-être pendant les mois de mousson. Comment les Taobatou se protègent-ils des pluies diluviennes ? Réponse dans un court instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ils ont marché pendant des heures dans la jungle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils viennent des hauts plateaux du sud de l'île de Palawan, aux Philippines.
Curieuse, curieux.
Ils ont quitté leur maison sur pilotis et leur champ pour fuir les typhons et les pluies diluviennes que déchaîne la mousson.
Vous êtes chez vous sur RTL.
La curiosité vous emmène en voyage à la découverte d'un peuple nomade, des chasseurs-cueilleurs qui vivent sur l'île de Palawan aux Philippines. Ce sont les Taobatou. Les Taobatou et notre invité, le photographe Pierre de Vallombreuse, a vécu plusieurs années avec eux. Quelles concessions ce peuple fait à la modernité ? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre en vase clos, forcément. Il y a des touristes, même des professionnels, des industriels qui s'intéressent à cette île. Comment ça se passe ?
Alors donc, les Palawan, même dans les montagnards dont ils font partie, ont toujours eu des échanges. Autrefois, ils descendaient, ils mettaient des produits de la forêt et les marchands chinois déposaient des jarres donc ils avaient ou des machettes quelques ou des tissus, donc il y a toujours eu des échanges,
du troc.
Et là maintenant ce qui se passe, c'est que là, quand au début il y a 28 ans quand j'étais là-bas, il y avait pas de route sur le sud de l'île, j'ai vu la route se construire, donc l'administration arrivait, des écoles, donc il y a de plus en plus à la fois des fonctionnaires, t'entends des petites des missions médicales, un peu de tourisme, une vingtaine par an, mais depuis 2 ans il y en a moins parce qu'il y a eu des troubles. Et donc voilà, il y a des échanges. Eux travaillent pour
Ils ont des portables, par exemple.
Oui, alors justement, ils ont des portables. Alors ceux qui ont un peu de sous, pour les crédits, ils montent sur les crêtes parce que ça passe pas dans la vallée. Puis ils donnent 2-3 petits, ils s'appellent comme ça. Mais surtout, les téléphones portables, ça sert à être chargé par des cartes mémoire dans lequel il y a de la pop malaise et de la pop philippine. Et tout d'un coup, il s'est suspendu et ils ont parfois des petites enceintes miniatures ultra puissantes dans lesquelles ils ont. Donc c'est tout un commerce de cartes mémoire où il y a de la techno. Et de temps en temps, ils se baladent en forêt. On a l'impression d'être en pleine techno.
C'est surréaliste.
Ah oui, complètement.
Pierre de Vallombreuse, vous aviez l'habitude de vous endormir au son du luth et des récits. Maintenant, ça ressemble à quoi, certaines nuits, dans la forêt des Palawan ?
Alors, ils mettent sur des petits lecteurs de DVD chinois, pas chers, qui rechargent avec des batteries solaires. Voilà, c'est des polars philippins, des films violents, malais, ou parfois de la musique. Mais, comme je leur dis, vous savez, t'entends, ils sont très gentils, ils sont délicats. Et t'entends, vous savez, moi, j'ai vite mal à la tête. C'est ma petite ruse que j'ai développée, parce que t'entends au bout de 2 heures d'avoir de la techno, alors qu'on a envie d'entendre le son du vent, des oiseaux, niveau de la pluie. Donc il faut attention, quand je viens, il baisse un tout petit peu. Et je sais, quand je m'approche d'un endroit et qu'il y a, il y a une espèce de partie infernale, quand j'arrive, tac, tout d'un coup, bonjour
Pierre. Ils sont
gentils.
C'est passionnant parce qu'ils sont à la fois donc, dans cette modernité, je ne vais pas dire qu'il est pollu, mais bon, voilà. Et en même temps, il y a des traditions ancestrales, notamment ce mode de vie. Vous dites, c'est un peuple cavernicole, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Et donc, ils vivent, ils fuient par exemple la mousson en se réfugiant où ça?
Dans des cavernes. Parce que pendant, quand il y a une mousson, ça peut vouloir dire. Les Palawan est protégé de la queue des typhons, par les typhons. C'est jamais le cœur. Mais il y a la queue des typhons qui vient balayer. Ça peut faire abattre des arbres. Ouais. Il y a aussi le tonnerre. Et le tonnerre, c'est un dieu qui foudroie et calcine les gens. Donc ils ont peur. Donc ils vont se protéger dans ces cavernes. Et quand je suis arrivé la première fois, j'ai escaladé une paroi. Comme ça, il pleuvait. Et très, très gros. Ça c'était glissant. Il y avait des petits passages qu'ils enlèvent pour être sûr que personne ne vienne, parce que ce sont aussi des grottes pour se protéger en cas d'agression. Et donc, je me hissais comme ça, et tout d'un coup, j'entendais le bruit d'un gong, pam, pam, pam. Et en arrivant, j'ai surgi dans une caverne où il y avait des gens qui faisaient du feu, il y avait ce gong, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est la préhistoire. J'avais fait un bond de 20 000 ans en arrière, c'était extraordinaire.
Mais quand vous dites caverne, en fait, quand on voit votre exposition au Musée de l'Homme, le Peuple de la Vallée, avec vos photos, c'est vertigineux, c'est périlleux ce qu'il doit faire pour atteindre ces cavernes, c'est ça?
Ah oui, c'est très. Je vais recommencer des saisons cavernicoles. Je redoute un peu parce que je suis passé sur des endroits où parfois on a un apic de 100 mètres et on est sur une racine qui faisait 5 cm de large. On était comme ça. Et ils m'ont dit, maintenant, tu t'es légèrement enveloppé, il faudra qu'on construise, puisqu'ils peuvent construire des passerelles et des ponts. Et j'ai pu passer des endroits où effectivement, je me demande comment j'ai fait.
Quelle est l'organisation sociale des Taubatou? On va en savoir plus encore sur ces chasseurs-cueilleurs de l'île de Palawan. Y a-t-il un chef dans leur tribu? Des règles de vie? Des procès aussi? A tout de suite, les curieux.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Avec le photographe Pierre de Vallombreuse, vous nous faites découvrir ce peuple de la vallée. On est donc aux Philippines, sur l'île de Palawan, un peuple de chasseurs-cueilleurs. C'est quoi leur organisation sociale? Est-ce qu'il y a un chef?
Ah non, c'est une société qui déteste les chefs. On ne donne pas d'ordre à un Palawan. Ce sont de gentils anarchistes. Ce sont même des pacifistes. Ils ont été recensés parmi les peuples les plus pacifiques au monde. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ressortir à la violence si besoin est. Et donc, il y a par contre des gens qui ont des titres de conseillers ou de juges, mais qui n'ont que le pouvoir de donner une décision, de donner une amende, d'infliger une peine, mais surtout pas de la faire appliquer. Il n'y a pas de coercition.
Mais donc, il y a une justice quand même.
Oui, il y a une justice.
Et qui fonctionne comment chez les Taubatou?
Si je vous condamnais par exemple à 200 euros d'amende, si vous êtes condamné, c'est dit, tout le monde le sait, vous avez été jugé coupable. Si vous ne les donnez pas, vous ne les donnez pas.
C'est la pression sociale, mais c'est le regard qu'on va porter sur nous.
Exactement. Par contre, vous allez vous isoler un petit peu. C'est-à-dire que les gens ne nous font pas vraiment confiance. Il y a des gens qui ont été bannis, ils sont toujours là.
Et ça marche bien comme système?
Oui, parce que c'est
quand
même.
Vous l'avez vécu. Vous avez fait 18 voyages, 4 ans de présence au sein de ce peuple de la vallée. Et du coup, vous avez vécu les procès?
Oui, j'étais partie prenante dans deux procès. Parce que, voilà, quand les missionnaires sont arrivés, ils ont réussi à convertir l'homme le plus vénal et le plus ambitieux, le mégalo de la vallée, qui lui voulait être chef dans un endroit où il n'y a pas de chef. Oui. Donc, quand il a vu les missionnaires arriver et le nouveau monde que ça supposait, qui allait diriger, et là, il n'avait pas tort, c'était l'avant-garde d'un monde, il s'est dit, moi, en devenant pasteur, je vais être chef de quelque chose. Et en plus, les pasteurs lui donnent à lui les médicaments, les vêtements, un peu d'argent, de la nourriture. Ils ont toujours converti avec des biens. Les gens, ce sont tous des vénaux. Donc, il a réussi, au bout d'un moment, à convertir des proches, sa famille, tous intéressés par ça. Et donc, à un moment donné, il leur a dit, voilà, là c'était dans les premières années, moi je revenais régulièrement, et il a dit un jour, comme il avait été dans la capitale de l'île, emmené par les missionnaires, il est revenu en disant, écoutez, l'armée philippine a décidé de protéger nos antiquités, parce qu'autrefois ils faisaient du négoce, et c'était des jarres, des assiettes chinoises, des porcelaines, des antiquités. Donc, vous allez tous me les donner, l'armée des Philippines va construire une cabane en bois au milieu de la capitale de l'île, provinciale, pour les protéger. Là, je lui dis, à mon avis, si l'armée des Philippines a autre chose à faire que ça, sa santé, le marchand, il allait les vendre.
Il y a eu un procès.
Il y a eu un procès, donc j'ai expliqué plein de choses. Et son beau-père, qui était juge et pourtant converti, l'a condamné. Et donc, il ne m'aime pas beaucoup. Quand il m'a vu revenir après 15 ans d'absence, il a eu un tic nerveux et s'est dit « Ah,
pour terminer, les problèmes ». Est-ce que ce peuple, les Palawan, enfin les Taubatou, est-ce que ce peuple est en danger aujourd'hui?
Alors, ils sont en danger, oui et non. Parce que les Philippines est un pays qui ne martyrise pas ou n'exerce n'exerce pas une pression violente sur ces peuples autochtones.
Qu'est-ce qui les menace alors, disons ça?
Ce qui les menace, c'est l'avancée des palmiers à huile, des plantations qui grignotent peu à peu les terres. On donne 2000 balles à un Batou, un Palawan, c'est une somme énorme. Au bout de 2 ans, 1 an, il l'a dépensé, il n'a plus rien, il devient un sous-prolétariat qui travaille taille pour des compagnies qui font du palmier à huile, de l'écocotier, donc ils perdent leurs terres.
Et ils n'ont plus de terre.
Ils n'ont plus de terre. Et on crée des gens qui étaient pas pauvres, mais qui étaient modestes, deviennent pauvres et dépendants, alors qu'ils étaient indépendants. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il y a eu des conflits. La guerre communiste s'est un petit peu réveillée, malheureusement, dans la région. Il y a des conflits qui terrorisent les gens. D'ailleurs, des fois, quand je suis passé, l'armée m'a dit, écoute, Pedro, parce qu'ils me connaissent un peu depuis le moment, il y avait un poste, ils m'ont dit, voilà, tu vas dans la vallée au milieu, nous, on attaque à droite, on attaque à gauche, tu nous signes une décharge, et puis voilà, mais je connaissais les gens, et puis je suis passé avec... et donc on a entendu des coups de feu, effectivement, il y a une opération, et qui s'est... Donc voilà, donc la peur est là, maintenant.
Ils vont disparaître un jour ?
Non, ils vont peut-être s'intégrer en se désintégrant, qui était une expression d'Edgar Morin, qu'il a fait pour mon livre Peuple, l'intégration désintégrante. C'est ce qui les guette maintenant. Parce que là, par contre, la vallée, là maintenant, à un moment, il y a de plus en plus d'interactions. Il y a de plus en plus de gens de l'extérieur et on sent qu'il y a un basculement. Ils envoient certains de leurs enfants à l'école. Donc voilà, il y a un moment donné où, de toute façon, l'évolution elle est inéluctable et elle est bonne si elle est dans le respect de chacun.
D'où l'importance de votre témoignage et de cette exposition à découvrir au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au mois de juillet. Puis je rappelle le titre du livre que vous étiez venu nous présenter il y a 2 ans, « Souveraines, ces peuples où les femmes sont libres », c'est chez Artaud. Merci.
Merci beaucoup à vous. Pierre, à bientôt.
Vous écoutez RTL.